Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. En France, les thérapies quantiques suscitent un engouement certain. Il suffit pour s'en convaincre de fréquenter les salons du bien-être ou les conférences sur ce sujet. Les thérapies quantiques parlent d'états vibratoires, de signatures du vivant, de biorésonance, de biofeedback. Elles utilisent aussi des appareils électroniques. Pour nous en parler, je reçois en ce mois de mars Francis Fabry, thérapeute quantique à Beaulieu. Bonjour Monsieur Fabry.
Bonjour Madame Delefosse.
Alors, pourquoi et comment devient-on thérapeute quantique ?
Alors, pourquoi et comment ? Parce que forcément, on a le goût de l'autre et l'envie probablement de l'accompagner dans ses difficultés. À l'origine, j'ai fait des études de physiologie. Je n'ai pas poursuivi mes études quand j'étais plus jeune, j'ai fait autre chose plus tard, voilà, la vie m'a rattrapé. Et après avoir bien vécu professionnellement, bien expérimenté la vie, je suis revenu à mes anciennes amours et j'ai repris donc mes cours et je me suis offert une formation en, comme vous l'appelez, en thérapie quantique. Cela dit, c'est pas comme ça que je parle de moi. Quand je parle de moi, je vais plutôt dire que je suis un conseiller en hygiène de vie. Et j'ai pour m'aider à comprendre la réalité de l'autre, de mon patient, de ma patiente, un outil extraordinaire, voilà, qui me permet de faire des bilans par biorésonance, une expression que vous avez précédemment utilisée, et c'est exactement ce que je fais donc.
Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que la biorésonance ?
Alors, la biorésonance, c'est la possibilité d'interroger le vivant en amont, donc, de sa réalité, on va dire, énergétique. Et là, c'est un vaste débat parce qu'il va donc nous envoyer au début du XXe siècle. Même à la fin du 19e, on peut dire, nous allons faire référence à ces grands noms de la physique traditionnelle, d'abord issue de la physique traditionnelle. Alors je pense évidemment à Einstein, qui a été quelqu'un qui a eu une très forte intuition, mais à tous ces gens, Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, etc. Ces gens qui ont finalement, Max Planck, hein, qui est le père de la physique quantique, qui vont d'un seul coup nous basculer dans un paradigme nouveau, comme on est en train de le dire depuis la moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la physique traditionnelle, des Grecs anciens, hein, de l'époque d'Aristote, avait trouvé le moyen de mesurer les états de la matière. Voilà. Et elle s'était interrogée sur l'origine de cette matière. Pour eux, ça ne faisait pas de doute, la matière était d'origine corpusculaire. Voilà, c'était un corpuscule. Et puis, avec le temps, la philosophie aidant, une autre vision est venue proposer une autre définition de la réalité, en nous proposant donc que la matière était peut-être d'origine vibratoire, ondulatoire. Et finalement, il est revenu à ces savants du XXe siècle, du début du XXe siècle dont je vous ai parlé là tout de suite, de vouloir démêler, de savoir si la matière était plutôt d'origine corpusculaire ou vibratoire. Et finalement, on découvre avec un grand étonnement que la matière est dans une superposition d'états, qu'elle est à la fois corpuscule et ondulatoire. Voilà.
Alors, et alors, expliquer qu'est-ce que veut dire corpuscule et qu'est-ce que veut dire vibratoire.
Alors corpuscule, c'est un corps tangible, palpable. Vibratoire, c'est ce qui est tout ce qui est invisible. Alors, tout ça se passe dans un grand bouillonnement intellectuel, culturel, de découvertes. Y a des gens qui sont, comment dire, tous ces gens dont je viens de parler sont des physiciens. Mais il y a des gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. des biologistes, des physiologistes. Il est un grand nom qu'on ne cite à mon sens pas assez souvent, mais qui pourtant était un grand précurseur. C'est ce russe, alors j'escamote toujours son nom, Alexander Gourcevitch, qui a eu l'intuition de ce qu'on va appeler par la suite le biophoton. Il a eu l'intuition, il ne l'a pas vraiment nommé. Voilà, ça, on était Alexander Gourcevitch. Il fait ses premières publications en 1895, vous voyez. Et plus tard, on attribuera à Fritz Popp, hein, je crois que nous l'évoquions tout à l'heure hors antenne, on va dire de Fritz Popp qu'il est l'inventeur du biophoton. N'empêche que celui qui en a été le précurseur, c'est quand même cet Alexander Gourcevitch.
Alors, oui. Une question, oui, ouais. Qu'est-ce que le biophoton ?
Alors, le biophoton, juste pour aller au bout de la phrase que j'avais commencé, on devra à sa fille, Anna Gourcevitch, quelques décennies plus tard, d'avoir objectivé la réalité de ce biophoton, qu'on n'a encore pas appelé le biophoton. Finalement, c'est lui, Fritz Popp, qui va l'appeler. Mais faisons juste un petit retour en arrière, parce que déjà dès 1948, un grand biophysicien qui s'appelait un savant, qui s'appelle, j'oublie son nom, Louis-Claude Vincent, bien sûr, va parler, lui, de bioélectromagnétisme. On est en famille, voyez, biophoton, bioélectromagnétisme. Ça nous amène, bien sûr, à des questions de type électromagnétisme, champ électromagnétique, voilà. Mais je vais répondre à votre question à l'instant du biophoton. C'est quoi ? Le biophoton, finalement, c'est cette chose que, plus tard, on va appeler on va lui trouver sa réalité, sa présence. Ça, c'est une découverte toute récente, qui date des années 90 à peine. Nous devons à une chercheuse russe, là encore, qui s'appelle Tina Karou, d'avoir découvert que, dans le cœur de notre cellule, de toutes les cellules, les 100 000 milliards de cellules qui nous constituent, au milieu de tous les petits organites déjà définis et décrits par la physiologie, le noyau, les chromosomes, l'appareil de Golgi, la mitochondrie, eh bien, au cœur de la mitochondrie, elle découvre un biophoton, effectivement, qu'elle va appeler le cytochrome C oxydase. Et on savait que cette mitochondrie était responsable, c'est le poumon de la cellule, c'est elle qui va permettre la transformation d'une molécule de glucose en adénosine triphosphate, qui est libératrice d'énergie. Eh bien, à l'époque de Louis-Claude Vincent, on appelait ça biophoton, voilà. Et aujourd'hui, la communauté scientifique va appeler ça l'ATP. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Voilà, ce biophoton ou l'ATP, c'est un peu la même chose. Donc, c'est en fait, si on devait la schématiser ou tenter de la visualiser, c'est comme si au cœur de nous-mêmes, nous avions des millions de petites ampoules allumées et qui ont la caractéristique d'une ampoule. Votre ampoule de studio, elle diffuse son champ électromagnétique. On va parler de sa fréquence, on va parler de son intensité, de sa puissance, etc. Et c'est exactement le rayonnement électromagnétique que va mesurer l'appareil que j'utilise pour faire des bilans par biorésonance. Sometimes
around this empty place again, hoping to feel whole. Nothing but the world's beneath silence is louder than before. So I will sing you a song that I know that I can lean on. So I will sing you a song that
sur le réseau FM+, dans votre émission Itinéraire Santé, donc à écouter tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h. Francis Fabry, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur cette expérience de biorésonance.
Et oui, bien volontiers, puisque je suis là pour ça. Donc, nous avons évoqué la physique quantique et la compréhension différente du monde qu'elle nous propose de faire. La physique quantique, si on devait la résumer, elle nous explique que cette réalité tangible, c'est quoi ? C'est de l'énergie, de la matière et de l'information. Voilà. Donc, l'appareil que j'utilise va sonder cet univers-là dans ces trois dimensions, l'énergie, la matière et l'information. Et elle va le faire donc par la résonance. Peut-être que nous devrions, en préambule, donner une petite définition de l'électromagnétisme et du champ électromagnétisme. L'électromagnétisme, en général, c'est l'étude des champs électromagnétiques et de leur ou du champ électromagnétique, on va dire, et de son interaction avec les particules chargées. Voilà. Le champ.
Particules chargées.
Oui. Celles qui ont une charge électrique. Mm-hmm. Voilà. un cation cellulaire, voilà. Et le champ électromagnétique, on va dire, c'est la représentation dans l'espace des forces électromagnétiques qu'exercent précisément ces particules chargées. Sur notre Terre, eh bien, l'électromagnétisme de la Terre, voilà, c'est une réalité. L'aimant, la pierre, etc. Mais, rapporté à notre réalité vibrante, chaude, animale, qu'est l'humain, le vivant, on va dès lors parler de bio-électromagnétisme. Et ce que va faire le physioscan, finalement, il va interroger toutes les structures vivantes, vibrantes, à tous leurs niveaux de complexité. Exemple, on va prendre la cellule la plus simple de l'organisme. C'est la cellule du tissu osseux, celle qui vibre le moins fort. Voilà. Et en revanche, celle qui vibre le plus fort, c'est la cellule du cortex cérébral, de la matière grise, ou bien de l'œil, de la vision, des cônes, des bâtonnets, du nerf optique, etc. Je vous disais précédemment donc qu'au cœur de ces cellules, qu'il s'agisse des cellules osseuses ou des cellules de la vision, il y a dans la mitochondrie, le fameux cytochrome C oxydase. Voilà. Et celui-ci rayonne, c'est une petite lumière, dont l'intensité a été mesurée est de 10 puissance moins 23 watts par centimètre carré. C'est pas beaucoup. Mais en revanche, la fréquence, celle qui permet de mesurer ce champ électromagnétique, qui d'orbe en orbe s'exprime comme ça, eh bien, du tissu le plus simple, c'est-à-dire le tissu osseux, au plus complexe, la vision varie de environ 35 à 78 gigahertz. Quand on dit giga, on a multiplié par milliard. Ce sont donc des milliards de pulsations par seconde. Et en fait, un réseau hertzien, c'est quoi ? C'est que c'est le nombre de fois où la fréquence change par seconde. Vous vous rendez compte ? Si on dit 50 Hz, ça veut dire que, en fait, elle a changé 100 fois par seconde. Si on dit 35 gigahertz, 35 milliards, c'est-à-dire qu'elle a changé 70 milliards de fois, voyez, de plus à moins, plus à moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. Donc, comment ça se passe ? On n'a pas de mal à comprendre, que, même si on n'est pas biologiste, physiologiste, que plusieurs cellules vont former un tissu, plusieurs tissus vont former un organe d'une même nature, hein, tissu osseux, etc. Et dès lors, ce qui se passe, c'est que chaque organe, du plus loin de nous-mêmes, au plus intime, au plus profond, au plus près, va pulser un écheveau inextricable de fréquences mêlées qui crée un champ mêlé de vibratoire. Donc, le physioscan, c'est cet appareil donc, que nous avons sous les yeux, qui va permettre d'entendre ces fréquences. En fait, il fonctionne en afférence et en efférence. Il va entendre ce brouhaha de fréquences mélangées. Il va décider d'amplifier une fréquence pour la sortir du lot, parce que dans ces milliers de fréquences, on n'y comprendrait rien. Donc, il en amplifie une pour la sortir du lot et va dialoguer avec, en fonction des différents étalonnages qui ont été enregistrés dans la machine. Étalonnage des os, du cœur, du foie, du pancréas, des intestins, du cerveau, etc., etc., etc. On pourrait faire jusqu'à quelques centaines de scans, donc de nos organes. Voilà comment fonctionne un bilan par biorésonance.
Oh, something good. Oh, something good tonight made me forget about you for now.
Sur le réseau FM+, émission passionnante sur la médecine quantique. Bon, voilà, en compagnie donc de Monsieur Francis Fabry. J'aimerais, voilà, la médecine quantique est une médecine, faut quand même peut-être préciser, non conventionnelle.
C'est vrai.
Bon. C'est toujours très difficile en France, on est vraiment très en retard, je pense, à ce niveau-là.
On laissera chacun le soin de se faire une idée là-dessus.
Bon, et elle permettrait donc de comprendre l'origine de la maladie pour la traiter. Est-ce que c'est exact ?
Alors, c'est pas comme ça que je vais le formuler. Le physioscan, donc, c'est un formidable outil de savoir intégré, en tout cas, d'information. Quand on va scanner la tête, les organes sous thorax, le cœur, le foie, les intestins, le pancréas, etc., de gens qui viennent nous voir pour le bilan, en fait, il va y avoir donc la captation vibrante de la personne qui est en face du physioscan, mais on va avoir une confrontation dans une base de données. Cette base de données, elle a été étalonnée en fonction de l'âge, des sexes, des groupes sanguins, de tas de choses, et évidemment, on a fait en sorte de scanner plutôt des gens en bonne santé. Donc, on se rend compte que le physioscan est d'abord, on peut dire, un formidable outil d'entropie, qui est là pour mesurer, sur un mode vibratoire, les niveaux d'ordre ou de désordre. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que partant du tissu le plus simple, le tissu osseux, au tissu le plus complexe, donc le cerveau ou la matière grise, eh bien on a comme ça différentes fréquences. Alors on va dire par exemple, le tissu osseux, il vibre à 1,8. Puis on va passer au niveau supérieur, on va avoir, se retrouvant, trois types d'organes vibrant à la fréquence 2,6. Ça va être par exemple le tissu conjonctif, la surface articulaire, les valvules cardiaques. Puis on va passer à 3,4. Là, on va avoir une extension du tissu conjonctif, on va plutôt avoir ensuite les muscles striés et le muscle cardiaque. Puis on va passer à 4,2, on va avoir le système digestif, puis à 4,9, le foie et la vésicule binaire, ainsi de suite, voilà, jusqu'à 8,2, où on va avoir là le plus vibrant de nous-mêmes, c'est-à-dire la matière grise du cerveau, hein, le cortex cérébral, cette petite membrane qui croûte la matière blanche sur quelques millimètres à peine, et exclusivement les organes de la vision, donc la rétine, les cônes, les bâtonnets, etc. Voilà comment va se faire donc le calcul. Alors, en fait, qu'est-ce qui permet ce physioscan ? D'abord, de faire une lecture informationnelle. Et par là même, si on se rend compte que le tissu scanné de l'organe en question a perdu de son champ vibratoire originel, on est par exemple sur le foie et la vésicule biliaire, 4,9. Si on est à 4,7, on a perdu de sa fréquence, eh bien l'appareil va être capable de reproduire les 4,9 du foie et de la vésicule biliaire, de l'envoyer par le casque au cerveau. Le cerveau entend la fréquence, et parce que nous savons qu'à l'intérieur, les organes communiquent entre eux par une espèce de lumière cohérente, un peu comme l'homme a inventé la fibre optique, eh bien nous, à l'intérieur de nous-mêmes, nos organes communiquent par cette lumière cohérente. Alors, l'information, la fréquence 4,9, étant entendu par le cerveau, va être à son tour transféré au foie et la vésicule biliaire, qui va se caler sur cette fréquence et qui va réentendre sa fréquence originelle. Donc, on va parler plutôt de réinformation vibratoire.
D'accord. Voilà. Mais écoutez, passionnant. Merci beaucoup, Monsieur Fabry. Donc, j'invite les auditeurs à notre rendez-vous donc du troisième mercredi du mois pour la seconde partie de cette émission. Ce sera le 18, où là nous rentrerons dans le côté concret entre guillemets, où apparemment je vais servir de cobaye avec votre appareil, où donc chers auditeurs, vous saurez exactement comment se passe une séance de physioscan. Information pratique, Monsieur Francis Fabry est domicilié à Beaulieu, c'est toujours l'Hérault,
oui,
hein.
Oui, dans l'Hérault.
Voilà, 34 chemin des Vignes, c'est à 25 km à l'est de Montpellier. Je peux donner votre portable, monsieur Fabry?
Oui, bien volontiers.
Vous avez, oui. Donc 06 99 03 97 02. Et en allant sur YouTube, vous verrez, vous inscrivez Francis Fabry et vous verrez une vidéo qui explique aussi comment se passe une séance, c'est ça?
Voilà, si je peux me permettre, Fabry, oui. Fabry.
Très bien. Voilà. Donc, merci à Manu Kittel à la technique, et rendez-vous très vite donc pour le 18 mars.